gloire au Seigneur. Soir, tout en demeurant dans cette attitude de prière et de recueillement, puisque nous nous apprêtons donc à écouter la parole du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous parle maintenant. Il nous a donné l'occasion de nous exprimer devant lui. Il nous a donné l'occasion de lui apporter notre louange, notre adoration, de lui exprimer notre reconnaissance pour ceci ou pour cela. Le moment arrive où maintenant celui qui veut nous parler, celui qui veut nous faire du bien par sa parole. Et pour cela, nous avons tout intérêt à faire taire toute autre voix autour de nous, en nous, afin que la seule voix qui soit entendue par chacun de nous, la seule voix que notre conscience puisse percevoir, soit celle du Seigneur. Alors je vous prie d'incliner simplement vos têtes et avec crainte, avec respect, déférence devant Yahweh, le Dieu d'Israël, devant celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, devant celui qui, lorsqu'il parle, comme les Saintes Écritures le déclarent, lorsqu'il parle, eh bien sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Je voudrais, Seigneur, avant toute chose, te remercier pour ce moment merveilleux, ce moment extraordinaire que nous venons de passer avec toi, Seigneur, alors que nous sommes entrés dans ta présence, ce moment de louange, ce moment d'adoration, ce moment où chacun de nous, Seigneur, en toute liberté, avec confiance et avec foi, s'est adressé à toi, Seigneur, à toi le seul qui est digne de recevoir de la part non seulement des anges et de tous ces êtres célestes, mais aussi de la part de l'humanité tout entière, recevoir au Dieu de chacun de nous l'ange, l'adoration, la majesté, l'honneur, et ce, pour les siècles des siècles. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons maintenant te donner l'occasion, Seigneur, à notre tour de nous taire, afin que tu nous parles. Oins ton serviteur, donne-lui toute la grâce, toute l'onction, toute l'intelligence de l'esprit dont il a besoin pour proclamer ta parole. Seigneur, de manière persuasive, proclamer ta parole avec puissance et autorité, Seigneur, et en même temps bénis ton peuple. Seigneur, donne-lui cette capacité de recevoir ta parole, mais aussi de la mettre en pratique. Bénis-la, sanctifie-la dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre conscience, Seigneur. Nous voulons, Dieu, que tu nous aides à exposer constamment notre conscience à la fraîcheur de ta parole, ô Dieu, afin que notre conscience soit affinée, aiguisée par ta parole et ta parole seule. Et ainsi, Seigneur, devenir, ô Dieu, capable de discerner ce qui vient de toi, de ce qui vient du mal, et avoir la capacité de mettre ta parole en pratique. Bénis cette parole, Seigneur, maintenant, alors que nous nous apprêtons à l'écouter, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La fois dernière, nous avons terminé notre prédication par une parenthèse relative à la souffrance. Je parlais un tout petit peu de la souffrance et comment cette réalité terrible suscite en nous toutes sortes d'interrogations, toutes sortes de questionnements. À chaque fois que la souffrance frappe, À chaque fois, mes amis, que nous sommes confrontés à une quelconque adversité, nous essayons par tous les moyens de comprendre, évidemment, autant que faire se peut, comprendre pourquoi cela nous arrive. Et lorsqu'il s'agit, et surtout lorsqu'il s'agit d'une situation qui nous fait pleurer, une situation qui nous dépasse, qui suscite en nous incompréhension, la souffrance. J'aimerais aujourd'hui revenir encore un tout petit peu là-dessus, mais cette fois-ci, montrer à chacun de nous, mes amis, l'incapacité que nous avons à comprendre tout ce qui nous arrive, car il y a dans la souffrance une dimension mystérieuse, il y a dans la souffrance quelque chose qui échappe à toute démarche rationnelle, à toute démarche de compréhension. Nous allons donc parler de la connaissance partielle que nous avons, alors que nous sommes sur cette terre, parler de cette incapacité que nous avons à pouvoir comprendre de manière parfaite et totale, que ce soit notre propre vie, que ce soit, eh bien, les choses qui nous entourent autour de nous, que ce soit vis-à-vis de Dieu, il est donc important que nous sachions que notre capacité est limitée. Quelle que soit l'expérience que nous avons avec le Seigneur, quel que soit l'état de notre cerveau, elle peut avoir été, eh bien, tournée dans les meilleurs poils académiques du monde. Nous pouvons avoir été dans les meilleures universités qui soient, mais nous ne devrions jamais oublier qu'il y a toujours une part de mystère dans certaines choses. Il y a des choses qui resteront toujours des énigmes pour nous. Nous connaissons partiellement. Tel est donc notre thème de ce dimanche matin. Partiellement par rapport à Dieu, partiellement par rapport aux différentes situations, aux différentes circonstances qui peuvent donc environner notre vie. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, après l'hymne à l'amour, nous arrivons au verset 8 d'1 Corinthiens 13, où la parole nous dit ceci, nous lisons, « L'amour ne succombe jamais ». Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce qui est extraordinaire en grec, c'est que nous avons deux verbes différents, utilisés ici pour traduire le verbe « connaître ». Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui nous voyons, au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, viendra le moment où nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement. Mais alors, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je viens de l'introduire, beaucoup de questions demeurent sans réponse lorsque nous essayons d'aborder le thème de la souffrance, car, comme je l'ai souligné, et comme certains d'entre nous le savent, il y a toujours une part de mystère, quelque chose qui échappe à toute approche de la souffrance quant à la comprendre pleinement. Il y a, frères et sœurs, dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, des mystères. Et là, nous ne devrions jamais l'ignorer. Des choses, eh bien, qui échapperont à notre compréhension. Des choses pour lesquelles nous n'aurons aucune explication, voyez-vous. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne comprendrons jamais, tant que nous serons dans ce corps de chair. Des choses qui échapperont à toute démarche rationnel, à toute démarche de compréhension. De choses qui sont là comme des énigmes, voyez-vous, des circonstances difficiles, des adversités, mes amis, de tout genre, pour lesquelles nous n'aurons aucune explication, malgré notre désir, notre volonté de comprendre pourquoi cela nous arrive-t-il, pourquoi cette souffrance frappe telle ou telle autre famille de laquelle, dont nous avons, ou de laquelle nous avons un très bon témoignage, nous n'aurons qu'une explication rationnelle et suffisante. Nous pourrions nous poser des questions, des questions du genre, pourquoi cela m'arrive-t-il à moi, alors que je vis et je marche dans le Seigneur, alors que je demeure dans la crainte de Dieu, pourquoi cela arrive-t-il à telle ou telle autre sœur, à telle ou telle autre famille, alors que c'est une famille qui craint Dieu, qui aime Dieu, voilà que tout d'un coup le malheur s'acharne contre elle. Pourquoi souffrais-je autant, voyez-vous? Nous pourrions donc nous poser ce genre de questions et ne jamais recevoir de réponse adéquate et satisfaisante. Car, comme je viens de le souligner, il y aura toujours des mystères et des énigmes dans la vie. Prenez le cas de ce chrétien, un homme craignant Dieu, qui prend sa voiture, qui roule calmement sur une route, à bord de son véhicule, calmement. Et puis tout d'un coup, soudain, sa voiture est heurtée par une autre voiture conduite par un monsieur dans un état d'ébriété très avancé, un monsieur très alcoolisé, ne pouvant pas se contrôler. Il arrive à heurter la voiture du chrétien avec une violence inouïe. Et après l'accident, le conducteur soulard sort de sa voiture avec à peine quelques égratignures, tandis que le chrétien, lui, hélas, il s'en sort avec une paralysie pour le restant de sa vie. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Voyez-vous, ce Dieu qu'il a toujours servi, comment n'a-t-il pas évité ou retenu ce chrétien avant de prendre la route en créant une circonstance qui l'aurait amené à prendre la route en retard? Comment expliquer? Comment est-ce possible? Énigme. Oui, la réponse la plus simpliste consiste à dire oui, Dieu l'a permis. Oui, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est trop simple. Voyez? Il y a une chose que nous devons savoir, qu'il y a deux choses pour lesquelles nous n'aurons jamais d'explication. Alléluia. Puisque nous connaissons partiellement, en attendant que nous puissions quitter ce corps, nous puissions entrer, mes amis, dans son royaume, alors nous verrons face à face, nous comprendrons pourquoi ceci était arrivé, pourquoi cela nous était-il arrivé. Mais en attendant, ça reste énigmatique. Un autre exemple d'un serviteur de Dieu, duquel j'avais un très bon témoignage, qui était venu animer une grande rencontre que nous avions organisée autrefois, c'était en 99. Il est venu de France, il a prêché la parole de Dieu, nous avions loué une très très grande salle, la salle était pleine, je me souviens encore, pleine à craquer. L'homme de Dieu a proclamé la parole. Ensuite, il a commencé à prier pour les malades, et le Seigneur avait agi. Je me souviens qu'il y a des gens qui avaient été guéris miraculeusement. Alléluia. Dieu avait agi au travers de son ministère. Dieu avait honoré la prière qu'il lui avait adressée en faveur de tous ces malades. Mais quelques années plus tard, le même serviteur de Dieu fut emporté par une tumeur au cerveau. Dieu avait entendu la prière qu'il avait faite en faveur des autres. Et Dieu avait guéri. Mais lui, emporté par une tumeur au cerveau. Comment expliquer? Comment est-ce possible? Le dimanche dernier, pour ceux qui étaient au deuxième service, ils se souviendront que nous avons présenté et consacré au Seigneur une petite fille. La petite fille de notre frère d'ici moi. Dont la maman est décédée lors de l'accouchement. C'était une sœur. qui était avec nous, qui s'est mariée ici. À l'accouchement, elle a été emportée. On a pu sauver la petite, et dimanche dernier, le papa, notre frère, était avec ce petit bébé, une jolie petite fille, et nous l'avons présentée au Seigneur. Dieu entend la prière, oui ou non? Ne pouvait-il pas épargner, mes amis, cette famille, ce frère du veuvage? Cette petite fille va grandir sans sa mère. Certes, le frère finira peut-être par se remarier. Certes, le Seigneur, dans son amour, lui trouvera une autre mère, une autre maman. Mais Dieu n'aurait-il pas pu faire un miracle? Je connais aussi un autre cas. Une sœur que nous connaissions très bien, mon épouse et moi-même. Une fille très intelligente, juriste, qui parlait 3 langues, travaillant dans une grande banque. Évidemment, d'origine congolaise, mais ayant évolué de l'autre côté. Parlait très bien le néerlandais, parlait très bien l'anglais. À l'époque, j'avais un de nos garçons qui faisait le foot en Flandre. Il jouait dans un club flamand et je recevais souvent le courrier en néerlandais. Et c'est elle qui me traduisait cela. Parlait très bien français. Elle aussi, à l'accouchement, emportée par une éclampsie, et s'en est allée, laissant derrière elle un père, un mari, avec une petite fille. Mes amis, ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Et en face desquelles nous n'avons aucune explication. Des énigmes. Et la vérité centrale du passage que nous venons de lire est aujourd'hui, maintenant, alors que nous sommes dans cette réalité spatio-temporelle, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais le jour vient où nous verrons face à face. Alléluia. Le jour vient où nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est-à-dire de manière pleine et parfaite. Essayons de considérer un tout petit peu le contexte de ce passage. Où nous voyons l'apôtre Paul traiter du sujet de la connaissance et de notre compréhension limitée, mes amis. Et ce, quelle que soit notre expérience spirituelle. L'homme qui parle ainsi est un homme qui a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Paul n'a pas connu le Seigneur dans la chair. Le Seigneur s'est révélé à lui alors qu'il était sur le chemin de Damas, chargé d'aller arrêter tous ceux qui abandonnaient le judaïsme pour se tourner vers le christianisme, les enchaîner, les persécuter et même les tuer. Et là, le Seigneur lui apparaît. Et plus tard, cet homme va avoir d'autres expériences. Et d'ailleurs, comme lui-même le dit, c'est par révélation qu'il avait reçu le mystère de l'Évangile. Voyez? Mais malgré toutes ces expériences, malgré toute cette connaissance qu'il avait, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan intellectuel, car Paul n'était pas un ignare, voyez-vous, né en Cilicie, à Tarse, qui était une ville qui abritait une grande école de philosophie grecque. C'est comme ça que lorsqu'il arrive à Athènes et qu'il est à l'aréopage, eh bien nous voyons que Paul peut discuter, peut échanger avec des gens appartenant à différentes écoles de philosophie, des stoïciens, des épicuriens, etc., et être très à l'aise, parce que lui-même avait été à baigner dans ces milieux marqués par la philosophie grecque, mais en même temps, de par son origine juive, eh bien, il avait eu accès à la connaissance de Saintes Écritures. Et malgré tout cela, mes amis, malgré tout cela, Paul nous dit que, eh bien, nous connaissons en partie. Il compare en effet notre connaissance présente, voyez-vous, qui est partielle, notre connaissance d'aujourd'hui à celle du jour où elle sera complète, elle sera pleine, où elle sera parfaite. Écoutez ce qu'il dit au verset 9 et 10, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Qu'est-ce que cela signifie? connaître partiellement en attendant que nous connaissions, que nous connaissons pleinement ou en attendant de connaître pleinement et parfaitement. Qu'est-ce que cela implique? Que de voir au moyen d'un miroir et de manière confuse, car c'est l'image qu'il utilise, voyez-vous, pour clarifier cette comparaison, pour nous permettre de comprendre, mes amis, que nous avons toujours et nous aurons toujours une connaissance limitée et partielle. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Voir au moyen d'un miroir, de manière confuse, de manière floue. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, comprendre, mes amis, ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte, nous permettra, nous aidera à mieux endurer les mystères de la vie auxquels nous avons fait face ou nous faisons encore face aujourd'hui. Cela nous permettra de se dire, oui, les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Tandis que les choses révélées sont pour nous, pour notre instruction et pour notre croissance. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière confuse ou floue. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, cela signifie que l'homme a besoin d'une révélation pour comprendre certaines choses concernant Dieu, mais aussi certaines choses concernant sa propre vie. Alléluia. Paul a compris plus tard, et il le dira lui-même, par rapport à sa vocation, par rapport au fait que le Seigneur l'avait mis à part pour qu'il devienne un outil pour le salut du monde, il le dira, je cite, « Lorsqu'il plut à Dieu, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Ça, il a compris plus tard que sa venue sur cette terre, sa naissance, eh bien, n'était pas un fait du hasard. Dieu avait un plan au travers de sa vie. L'homme a besoin de révélations parce que notre connaissance, notre compréhension, que ce soit de la personne de Dieu, que ce soit des événements qui nous entourent, de choses qui arrivent dans notre vie, eh bien, notre connaissance est partielle. Nous avons donc besoin de révélations de Dieu et de la part de Dieu. Voyez-vous? Pour certaines circonstances, en moins que le Seigneur lève le voile pour nous permettre de comprendre, autrement, nous ne comprendrions rien. La révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Que révéler. Révéler, vous le savez, c'est dévoiler. C'est divulguer. C'est enlever un voile sur quelque chose qui, jusque-là, était caché. Voyez-vous? Donc, révélation par rapport à Dieu, c'est le fait que Dieu lui-même, eh bien, lève le voile qui nous empêche de le connaître, qui nous empêche de vivre avec lui pour nous permettre ainsi de le connaître. Sans la révélation de Dieu, personne ne peut le connaître. Nous avons besoin de révélation. Voyez-vous, dans le passé, à l'époque, au début du christianisme, il y avait toutes sortes de philosophies. Et une de ces philosophies, c'était le gnosticisme, ou la gnose, qui mettait beaucoup d'accent sur la connaissance. Voyez-vous? Et qui avait amené les gens à croire, il y avait évidemment des époques ou des étapes d'initiation, mais tout tournait autour de la connaissance. Que la connaissance pouvait permettre à l'homme de connaître certains mystères du cosmos. Mais l'homme, quelle que soit son intelligence, a besoin de révélation pour connaître Dieu. La Bible nous dit, personne ne connaît des choses au sujet de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans le Saint-Esprit. Dieu évolue dans un univers, mes amis, qui est au-delà de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Même si, et c'est tout le paradoxe, c'est lui qui soutient cet univers par sa seule volonté. Voyez? Pour pouvoir entrer dans le monde de Dieu, il faut que nous naissions de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est la naissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, connaître Dieu, ce n'est pas simplement maîtriser des discours théologiques sur la personne de Dieu. Ce n'est pas simplement avoir des informations sur les attributs moraux ou autres de Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une expérience avec lui. C'est avoir une relation d'intimité, de proximité, une relation existentielle avec lui. Alléluia. Dieu doit d'abord venir à nous avant que nous nous allions à lui. C'est pourquoi il est venu dans la personne du Christ, pour permettre à l'homme de pouvoir le connaître et entrer dans une relation particulière avec lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas communier avec lui, mes amis, avoir une relation vraie, permanente, concrète avec lui, si nous ne sommes pas passés par cette expérience de la nouvelle naissance, expérience qui n'est rendue possible que par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes amis, au jour de sa chair, Jésus a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vie et la vérité. Et il a ajouté, nul ne peut venir au Père que par moi. En dehors de Jésus, mes amis, vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. En dehors de Jésus, vous pouvez avoir un cerveau à plusieurs étages, mais ne jamais connaître Dieu. Car connaître Dieu est plus qu'une question d'intellect ou de puissance cérébrale. Voyez, nous avons besoin justement de Dieu pour mieux le connaître. C'est ce que ça veut dire, que nous voyons de manière confuse et floue. Ça signifie alors que pour que nous voyions clairement, il faut que lui vienne jusqu'à nous, qu'il ôte le voile. Et puisque nous parlons de voile, eh bien écoutez ce que la Bible nous dit à propos de tous ceux qui lisent l'Ancien Testament, ceux qui essayent de comprendre les Saintes Écritures sans avoir eu au préalable une rencontre avec le Seigneur. La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Le voile n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Alléluia. C'est à partir du verset 14 et suivant. Hein. Le voile ne disparaît qu'en Christ. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce jour, ajoute l'apôtre Paul, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Cela nous montre, mes amis, que nous ne sommes tous avec une intelligence voilée. Que nous ne sommes tous avec cette incapacité de connaître Dieu. Même ceux qui se tournent vers la Bible, qui sont passés par toutes sortes de formations bibliques, théologiques, rabbiniques, tout ce que vous voulez, et qui essaient de comprendre la Bible, eh bien le verdict de la parole de Dieu est clair. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre parce qu'il y a un voile sur eux. Et ce voile n'est enlevé que lorsque le cœur se tourne vers qui? Vers Jésus, alléluia. Et dévoiler, c'est ça révéler. Donc révéler, c'est dévoiler. C'est enlever un voile, mes amis. Cela veut dire, mes amis, qu'il y a sur chacun de nous, et par rapport à certaines circonstances adverses, par rapport à certaines choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à d'autres que nous connaissons, des situations difficiles, par rapport à tout cela, il y a là comme un voile qui nous empêche de comprendre totalement. À moins que le Seigneur, dans sa grâce, enlève, ôte le voile, à ce moment-là, nous comprenons pourquoi il y a eu ceci. Pourquoi nous avons échappé à tel accident? Pourquoi nous avons échappé à telle mort? Voyez-vous, là nous comprenons, mais dans la plupart des cas, c'est avec le recul. Oui ou non? On réalise que non. Le Seigneur savait. Le Seigneur m'a destiné à quelque chose. Connaître Dieu demande la révélation. Vous savez, aucun champ de connaissances, quel qu'il soit, ne peut être étudié sans des appareils adéquats et appropriés. Par exemple, si vous voulez voir le microbe, vous n'allez pas prendre un télescope. Oui ou non? Pour voir le microbe, ben vous allez recourir à un microscope. Et là, vous voyez le microbe. Et pour contempler les étoiles, eh bien, vous n'allez pas prendre des jumelles. Vous allez prendre quoi? Un télescope. Oui ou non? Donc, pour chaque champ de connaissance, eh bien, il y a des appareils requis qui vont vous permettre de voir, de comprendre et de connaître. De même, mes amis, pour Dieu, personne ne peut le connaître en dehors du Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, il faut une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'agit que là où un seul nom est proclamé, là où un seul nom est élevé, là où un seul nom est mis en évidence, à savoir le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons pas connaître Dieu véritablement, c'est-à-dire avoir une relation vivante avec. Et ceci est important. Voilà ce que ça signifie voir de manière confuse. Il y a un voile. Jusqu'à ce que Dieu ôte le voile. À ce moment-là, nous le voyons. Ou alors, à ce moment-là, nous comprenons les différentes situations qui nous sont arrivées. Manière confuse. Au moyen de miroir, le miroir. Vous aurez remarqué qu'à l'heure d'aujourd'hui, le miroir est un élément omniprésent. Je suis convaincu que même parmi nous ici, le miroir est présent. Si nous pouvions faire le tour des sacs des dames ici, nous ne manquerions pas de tomber sur un miroir. Voyez, hein? Et dans les toilettes, voyez, on est là, on se lave les mains, on se regarde un tout petit peu, et puis après, voilà. Le miroir est omniprésent, c'est vrai. Et le miroir d'aujourd'hui nous renvoie une image très claire, presque parfaite de chacun de nous. Oui ou non? Mais nous devons savoir une chose. C'est que le miroir dont Paul parle, c'était des miroirs qui étaient utilisés à cette époque, notamment à Corinthe, qui était très célèbre, qui était une ville connue pour ses miroirs de métal, des miroirs de bronze. Ce n'étaient pas des miroirs de glace comme nous les avons aujourd'hui. Ou quand vous vous regardez, eh bien, vous vous voyez parfaitement. Si vous avez une tache là, eh bien, le miroir vous renvoie l'image nette et claire. Mais à l'époque, c'était des miroirs de bronze. On devait polir le bronze et seulement après essayer de se regarder dans ce miroir là. Alors vous pouvez vous imaginer l'image que ce genre de miroir renvoyait à l'homme ou à la femme. C'était donc une image floue, une image imparfaite. Voyez. Donc, et Paul utilise cette image de miroir pour parler, mes amis, de la manière confuse, de la manière floue, quant à notre démarche à comprendre les choses. Image de la connaissance présente que nous avons de Dieu, ou la connaissance que nous avons des circonstances, de choses, donc de la vie. Et bien, cette image-là, elle est incomplète, elle est imparfaite, elle est confuse, elle est floue. Voilà. Donc, l'homme qui parle ainsi, c'est un homme qui avait une grande connaissance sur le plan spirituel, oui ou non? C'était un homme, mais lui aussi reconnaît que malgré toutes ses expériences, malgré cette vocation particulière et singulière reçue de la part du Seigneur, lui aussi ne pouvait pas tout comprendre. Voilà donc la première chose, la première signification concernant cette expression. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière floue. C'est que l'homme, pour comprendre quoi que ce soit concernant Dieu ou concernant les événements de sa vie, a besoin de révélation, a besoin que le Seigneur puisse le dévoiler, entre guillemets, voyez-vous, qu'il puisse ôter le voile sur certaines circonstances, alors, l'homme comprendra pourquoi. Alléluia. Oui, il y a des choses. Nous nous sommes tous posé des questions. Moi, je m'en suis posé beaucoup par rapport à mon propre parcours. Pourquoi suis-je né dans des circonstances très difficiles? Pourquoi? Dans mon enfance, j'ai connu des choses très très difficiles. Tout cela parce que ma mère voulait que mon père ne puisse pas partir avec moi. Alors ça a été une vie difficile. En grandissant, je me souviens, j'allais à l'école et je voyais des enfants dont les parents les conduisaient. Mais moi, je n'avais pas ce père pour me conduire. Certes, il y avait entre-temps mon beau-père, celui qui avait épousé ma mère. Mais c'était un ouvrier au chemin de fer. Il n'avait pas, et il ne pouvait pas. Je devais aller seul. Et mes cahiers dans un petit sac en plastique. Et quand je regardais les autres, au début de mon cursus en humanité, des parents venaient le déposer en voiture. Et je me souviens, je regardais, j'étais presque complexé. Et je me disais, mais pourquoi moi suis-je dans cette situation? Voyez, mes amis. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Car il a fallu passer par là pour que nous soyons ce que nous sommes. Alléluia. Vous voyez? Il y a des choses qui nous dépassent. Vous voyez? Qui nous dépassent. Il y en a d'autres qui sont passés par la même expérience que moi, même pire, mais qui n'ont jamais eu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Alors pourquoi? Comment? Je suis pas spécial. Vous ne l'êtes pas non plus. C'est là que la Bible nous dit, tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce, mes amis. Il y aura toujours des énigmes. La deuxième chose. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière confuse et floue. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans cette vie, il y aura toujours des questions auxquelles nous ne trouverons jamais des réponses satisfaisantes, comme je l'ai souligné tout au début de mon message. Il y aura toujours des questions qui resteront là et pour lesquelles nous n'aurons jamais d'explication rationnelle qui nous satisfasse. Paul dit, nous voyons de manière confuse. C'est au verset 12. Nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais revenir à la traduction littérale pour permettre à chacun de nous de mieux comprendre. Le mot traduit ici par manière confuse ou manière floue, tout dépend de versions, c'est le mot grec enigmati qui a donné naissance en français au mot énigme. Donc ce que l'apôtre Paul dit littéralement, c'est qu'aujourd'hui nous voyons de manière énigmatique. Ça veut dire que il y aura toujours des énigmes dans notre vie. Alléluia. Et comme vous le savez, une énigme, c'est un problème difficile à résoudre. Voyez? Ou alors c'est ce jeu d'esprit, je sais pas si vous savez, ce jeu d'esprit où l'on demande de deviner une chose qui est décrite par des termes obscurs. Et souvent des termes à double sens. Vous voyez? Alors, ça reste une énigme parce que, bon, on ne sait pas, le terme qu'on a utilisé, l'image qu'on a utilisée a plusieurs sens, c'est quelle image ou c'est quel terme. C'est ça une énigme. Voyez-vous? Et énigmatique, c'est tout ce qui renferme une énigme. Alléluia. Tout ce qui renferme une difficulté. Quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir aussi facilement. Qui tient de l'énigme. Énigmatique, c'est quelque chose d'obscur, quelque chose de sibyllin, voyez-vous, de très difficile. Énigmatique. Et donc la Bible nous dit que voir comme dans un miroir, de manière énigmatique, se réfère à notre connaissance partielle de Dieu et de cette vie. Nous connaissons en partie. Ça veut dire quoi? Le reste se restera toujours énigmatique pour nous. Eh oui, eh oui. Quelques énigmes dans la vie. Regardez autour de vous des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est des gens qui insultent Dieu, qui méprisent Dieu à longueur de journée. Leur vie est une véritable abomination aux yeux de Dieu. C'est des gens corrompus jusque dans leur moelle épinière. C'est des gens qui n'ont aucune valeur. Voyez, qui vivote, végète, qui tire sur tout ce qui bouge, sur le plan moral, etc. Mais voyez-les comment ils prospèrent. Voilà. Alors que le juste, celui qui essaie de marcher avec le Seigneur, est confronté à toutes sortes de difficultés. Voyez. Et quelquefois, il est tenté, il dit, mais alors Seigneur, dans ce cas, moi aussi je vais faire comme eux. Non, ne tombe pas dans ce piège. Reste ferme. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Oui, des énigmes, il y en a. Très rapidement. Là, il y a encore beaucoup à voir. Prenez le cas de l'apôtre Jacques et de l'apôtre Pierre. Nous sommes au début de l'Église. L'Église est en train de grandir. La parole de Dieu est prêchée un peu partout. Il y a des conversions, etc. Et dans ce contexte-là, la persécution surgit à Jérusalem. Et entre-temps, la Bible nous dit qu'Hérode, eh bien, prend Jacques, arrête Jacques, le met en prison, et il finit par l'exécuter. Écoutez bien, Jacques, l'apôtre, le frère de Jean, l'autre apôtre, voyez, qui lui vivra presque 100 ans. Ils sont sortis du même sein maternel, oui ou non? Leur maman avait intercédé auprès du Seigneur pour le deux. Il n'avait pas dit, Seigneur, tu vois mon petit gamin Jean là, bon, son frère Jacques, mais bon, lui, mon fiston, permet qu'il s'assied à ta droite. Non, il a dit le deux. Donc, elle avait intercédé pour le deux. Ils avaient le même patrimoine génétique, etc., tout ce que vous voulez. Tous ont rencontré le Seigneur, oui ou non? Tous ont fait l'expérience avec Jésus. Tous ont été appelés à l'apostolat. Mais il y en a un qui va être parmi les premiers martyrs chrétiens. Et puis un autre, son frère Jean, lui va vivre presque 100 ans, puisque nous retrouvons cette trace du côté d'Éphèse sur l'île de Patmos, vers l'an 95 à peu près. C'est là d'ailleurs qu'il recevra le mystère qu'il parle dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui avait veillé sur Jean jusqu'à ce qu'il soit centenaire, ne pouvait-il pas veiller sur Jacques? Je vous pose la question. Non seulement ça, Pierre est aussi arrêté par le même Hérode, dans les mêmes circonstances, pour les mêmes motifs. Mais curieusement, Pierre est délivré par un ange. Mais celui qui avait envoyé un ange pour délivrer Pierre, ne pouvait-il pas aussi le faire pour Jacques? Je vous pose la question. Est-ce qu'il pouvait le faire? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ça reste une énigme. Oui, c'est facile de dire, c'était dans son plan. Oui, mais c'est dans le plan, tout est plan. Ouais. Vous voyez, mes amis, ne soyez pas de ceux qui ont explication à tout. Voyez. Ne vous comportez pas comme si votre cerveau était une bibliothèque divine. Voyez. À chaque fois, il y a un problème, papa, c'est tel rayon, cap, la solution. Voyez. Ça reste une énigme, mes amis. Si le Seigneur a envoyé son ange pour libérer Pierre, mais il aurait pu aussi libérer Jacques. Oui ou non? Oui, il n'aimait pas moins Jacques qu'il aurait aimé plus Pierre. Pas du tout, mes amis. Il les a tous aimés de la même manière, il les a tous appelés. Mais il a permis que l'un meure, tué, exécuté par ce roi apostat, Hérode, et que l'autre, Pierre, lui, connaisse une délivrance extraordinaire. Comment expliquer cela? Mes amis, vous et moi, nous connaissons en partie, et nous connaîtrons toujours en partie tant que nous resterons sur cette terre. À moins que pour certaines situations, le Seigneur nous donne une explication. Voyez? Mais sinon, ça restera toujours des choses énigmatiques, des mystères. Alors ne laissons pas, et ça c'est une des grandes leçons, ne laissons pas toutes ces énigmes de la vie triompher de notre foi. Alléluia. Avançons, même si nous ne comprenons pas tout. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, est amour. C'est que lui sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. C'est que lui peut utiliser même la souffrance pour la faire concourir à notre bien. S'il a permis cette telle ou telle autre souffrance, c'est qu'il n'y a que lui qui a toutes les raisons. Alléluia. Mais pour d'autres souffrances, comme je l'avais dit, l'homme lui-même les provoque. Vous ne savez pas vous contenir, vous souffrez d'incontinence verbale. Oui. Vous parlez de tout, du mal et tout ça, vous insultez les gens. Hein? Vous regardez un général et dites, toi là, regarde, tu n'as pas rasé ta barbe, il t'attrape. On te met en prison, oh non Seigneur, je suis persécuté. Il y a certaines souffrances. Oui. Comme je l'ai dit la fois dernière, c'est le fait qu'il y ait des accidents sur nos routes à cause de l'incivisme routier de certains ne devrait pas être imputé au ministre des Transports. Allez le trouver un peu, lui dire, monsieur le ministre des Transports, c'est vous qui gérez les transports routiers, les transports aériens ou ferroviaires et maritimes. Pourquoi vous avez permis qu'il y ait des accidents? Son Excellence le ministre vous regarderait en face. D'abord, il serait offusqué. Il vous dirait ceci. Toutes les fois que les gens ne respectent pas le code de la route, il y a quoi? Il y a des accidents. Et avec les accidents, il y a la souffrance. Ouais. Alors vous n'allez pas dire Dieu a permis. Ouais. Vous prenez un véhicule, comme je l'ai souligné, conduit par un homme soulard, dans un état d'imprégnation alcoolisée très avancé. Il a d'abord difficile à monter à bord. Il peine, rien. Parce que vous voulez absolument arriver. Ouais, ouais. Et le voilà qui prend le volant. En plus, le GSM sonne. Ouais. Et puis tout d'un coup, paf, vous heurtez, je ne sais pas, un gros routier venant du Congo central. Oh Seigneur, pourquoi vous avez permis? Non, le fait que nous soyons avec le Seigneur ne veut pas dire que nous ne devons plus utiliser notre intelligence. C'est ça le problème. Vous voulez marcher que par des prophéties, vous allez au-devant des problèmes. Ouais. Si vous devez attendre la prophétie que le Seigneur vous dise la couleur de la voiture que vous allez prendre, etc., vous allez attendre longtemps. Ouais. Donc, vous voyez, mes amis, ces genres de souffrances, nous devons faire attention. Mais d'autres, Dieu le permet. Mais pourquoi il le permet pour celui-ci? Et pourquoi, dans le même contexte, ne le permet-il pas pour l'autre? Ça reste une énigme. Vous voyez? Et enfin, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière confuse, mais alors, et ça c'est la bonne nouvelle, nous verrons face à face. Cela signifie qu'au ciel, lorsque nous aurons quitté ce corps, eh bien mes amis, nous connaîtrons pleinement. Alléluia! Nous connaîtrons pleinement et de manière parfaite. Et je vous dirais que beaucoup d'entre nous, eh bien, se demanderaient même pardon. Évidemment, on n'en aura plus besoin. Mais ils pleureront simplement en disant, mais Seigneur, et pourtant, quand cela m'est arrivé, je ne pouvais pas comprendre. Eh oui, il sait ce qu'il fait. Vous voyez, il y a donc des énigmes, mes amis. Il y a des énigmes. Alors ne soyez pas de ceux qui veulent comprendre tout. Vous voyez, non, il y a beaucoup d'exemples, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Et je terminerai par là, c'est comme ce jeune couple missionnaire américain, parti en Amérique latine servir le Seigneur. Ils ont ouvert une école biblique, ils allaient régulièrement, et entre-temps, je ne sais pas si c'était leur petit porteur, il est parti, à bord de ce petit porteur, aller apporter des Bibles dans des villages éloignés. Et il se trouve qu'en cours de route, en cours de vol, ce petit porteur est tombé, il s'est craché. Le pasteur est mort. Il a laissé une femme, je crois avec un ou deux enfants, je ne me souviens plus du nombre. Mais toujours est-il que parmi ses enfants, il y en a un qui, dès le départ, la femme n'a pas quitté le pays. Il a dit, Seigneur, tu nous as amenés ici, tu as repris ton serviteur, nous allons rester. Voyez ? Elle deviendra plus tard une grande bénédiction. Mais par rapport au fils, il jouait de la musique. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un des grands, ce j'ai oublié son nom. C'est un grand musicien chrétien qui remplit des stades et des stades. Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher à cet avion de se cracher? Pourquoi? Moi, je n'ai pas la réponse. Devant de telles énigmes, je m'incline. Je dis, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons de manière confuse et énigmatique, mais le jour viendra où nous connaîtrons de manière parfaite. Alléluia. Alors, mes amis, que nous passions par des moments difficiles, des moments de souffrance, eh bien, ne nous laissons pas distraire par toutes sortes de questions pour essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous continuions à lui faire confiance et à persévérer. Car tôt ou tard, si nous restons attachés à lui, et quelle que soit la nature de la souffrance, il finira par la faire concourir à notre bien et nous donnera la victoire. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui tient nos vies dans sa main. Et rien ne peut arriver sans que lui ne le permette. Même lorsque l'ennemi frappe, c'est rien. Lui, il est capable. Et même quand il permet à ce que l'ennemi frappe, est-ce qu'il ne peut pas empêcher à l'ennemi de frapper? Paul pouvait dire qu'il y avait un ange qui le soufflait. Voyez? C'était un esprit. Pourquoi? Eh bien, Dieu seul sait. Pour le maintenir, évidemment, dans cet état, mais on peut se maintenir dans l'humilité sans qu'il faille avoir une écharde dans son corps, non? Mais Dieu sait pourquoi il a fait pour Paul et pourquoi ne le fait-il pas pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu est bon. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et prier, remercier le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Maître, pour ta parole. Il y a des énigmes dans la vie, des choses pour lesquelles nous n'avons aucune explication. Et s'il y a ce matin des gens, Seigneur, qui passent par toutes sortes de souffrances, qui ont essayé de comprendre et qui ne sont jamais arrivés à comprendre la raison principale qui a fait qu'ils soient dans cette situation, eh bien aujourd'hui tu leur as parlé, ô Dieu. Il y a des choses qui resteront des énigmes, des choses pour lesquelles nous n'aurons jamais, jamais d'explication suffisante, rationnelle. Seigneur, et en face de toutes ces énigmes, nous nous inclinons et nous te disons merci pour tout. Ma prière est que tu nous aides et que tu aides ceux-là à persévérer, à rester debout, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve. Car s'ils persévèrent, ils finiront, Seigneur, en fin de compte, par expérimenter ton triomphe. Merci Jésus. Merci également pour ce moment consacré, Seigneur, aux offrandes et aux dîmes. C'est aussi un moment important, car c'est un moment où nous te donnons ce que nous avons préparé, afin que cela, ô Dieu, puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre et à l'avancement de ton règne, que ce soit ici ou ailleurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen.